Que le Seigneur soit glorifié. Nous voulons nous focaliser maintenant sur la parole de Dieu. Une parole, certes, vous allez le voir, très simple. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les prédications, les messages que l'on peut apporter. Évidemment, on dit des choses, on enseigne certaines choses, mais le plus important, c'est que ça soit pratique. Il faut que la vie chrétienne, elle soit pratique. Avoir une tête bien remplie, évidemment qu'il le faut. Mais il faut également, et ça va ensemble, la tête bien remplie, bien faite, mais un cœur aussi pour l'œuvre du Seigneur et être efficace pour sa gloire. Efficacité, on va en parler. On va parler de, justement, pour une vie, c'est comme ça que j'ai intitulé ce partage, pour une vie hautement efficace. On a besoin d'efficacité. Aujourd'hui, dans le milieu du travail séculier, l'efficacité, on recherche des gens efficaces. Et on a remarqué, selon une étude que j'ai pu constater, que finalement, les gens très efficaces ont un grand impact dans les domaines variés de la vie de tous les jours. Ceux qui sont efficaces. Alors on va voir, au travers de la parole de Dieu, comment être efficace. Des choses simples, sûrement, vous les avez déjà entendues. Mais c'est bien ce matin de pouvoir se les rappeler, et comme je viens de le dire, de l'appliquer. Alléluia, dans nos vies, que ce soit pratique, dans les domaines variés de nos vies, donc... Être efficace, partager ensemble les traits de caractère et des habitudes spécifiques. Alors on va parler d'habitude et d'efficacité. Ces mêmes principes d'habitude et d'efficacité sont appliqués dans l'Église. Évidemment, quand les croyants sont dans l'auditoire, on veut apprendre, on prend des bonnes habitudes. Déjà ce matin, vous êtes venus. Vous êtes levé, vous êtes réjoui quand le réveil a sonné ce matin. Vous êtes dit, chouette, je vais aller au culte ce matin, ça va être formidable. Alors, peut-être pas dans un premier temps. Je sais pas comment s'est passé votre nuit. Mais en tout cas, peut-être dans un second temps, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, alléluia. Pourquoi? C'est quoi la raison? Je trouve que c'est une bonne question, hein. C'est quoi la question? Pourquoi je suis dans la joie? Parce qu'il y a deux, Dieu, évidemment. Mais ce n'est pas la chose, évidemment, à laquelle, premièrement, on veut s'attacher, si ce n'est que Dieu, il est dans nos cœurs, il est dans nos vies. Ce matin, vous auriez pu rester à la maison, et Dieu est là quand même. Donc, en fait, c'est de se retrouver ensemble dans la communion fraternelle, là où le Seigneur nous a convoqués. C'est comme ça tout à l'heure que Bruno a prié, que nous avons répondu à la sainte convocation de venir dans sa présence pour le glorifier et l'exalter. Alléluia. Également, quand on parle d'efficacité, quand on est prédicateur, quand on partage la parole de Dieu, on souhaite que la parole et la pensée que le Seigneur met dans les cœurs, on puisse pouvoir la partager et qu'elle soit efficace. Dans les cœurs, dans les vies, il n'y a rien de plus satisfaisant quand le Seigneur met une pensée dans notre cœur. On partage la parole et quand c'est appliqué. Je me souviens, à un moment donné, au tout début, alors des fois, je pense que c'était un peu par compassion. Quand j'ai commencé dans le ministère, les mamies là, qui étaient dans l'église, « C'est bien mon petit, c'est bien. » Alors je pense que c'était la compassion, hein, parce qu'après, en réfléchissant, bon, il y avait certaines choses à améliorer, hein, évidemment. Mais moi, je disais souvent, au lieu de dire qu'une prédication, c'est bien, alors des fois, il faut le dire, hein, sans que... Après, c'est la personne qui est en face de gérer, lui. Il ne faut pas que ça monte trop à la tête, hein, parce que sinon, après, on s'envole. Mais en tout cas, voilà, c'est surtout appliquer la parole de Dieu. Quand on voit qu'il y a une suite à ce qu'on a prêché dans la vie des frères et sœurs, amen. Et c'est là où on réalise que dans l'épître de Paul aux Éphésiens, le Seigneur dit qu'il a donné, donc des ministères qui ont été donnés à l'Église. Et les ministères qui ont été donnés à l'Église, j'aime beaucoup, il est dit pour le perfectionnement des saints. Et on a besoin d'être perfectionnés. Tant que nous sommes ici-bas, on a besoin de perfectionnement jusqu'à avoir des bonnes habitudes et être efficace. En tant que chrétien, chacun doit absolument, pour être efficace et avoir certaines habitudes, la chose primordiale à faire, c'est de s'examiner régulièrement. Psaume 139, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Ça, c'est notre responsabilité. Parce que si on ne le fait pas, on peut se penser être dans le bon chemin, on n'y est pas. Vous vous souvenez de l'histoire de Samson, hein, qui à un moment donné va dire, ben bon, je m'en sortirai comme les autres fois. La suite du verset dit, mais il ne savait pas que l'esprit s'était retiré de lui. Il était tellement conscient, donc convaincu que le Seigneur était encore avec lui. L'esprit s'était retiré parce qu'il n'était pas dans les voies de Dieu. Donc s'examiner personnellement est la raison pour cela, afin de réaliser un service plus dynamique les uns envers les autres aussi, et envers la communauté chrétienne que nous représentons. Alléluia. Il est tellement important que chacun d'entre nous soyons trouvés efficaces. Et pour cela, il faut des bonnes habitudes. Quand on parle d'habitude, je regardais rapidement la définition d'habitude, de ces deux mots, ces deux mots-clés. Habitude. Tout d'abord, les habitudes, ce sont les actions qui sont enracinées et qui sont devenues naturelles par répétition. Ça, c'est la définition. Ce sont les choses que nous faisons sans y penser, mais que nous accomplissons avec précision. Dans le milieu du travail, à un moment donné, alors quand j'étais dans le milieu du travail, c'est pas que je travaille plus maintenant, mais voilà, dans la vie comme ça active, je me souviens qu'à un moment donné, voilà, on était avec les ordinateurs, valider certaines choses, puis à un moment donné, tout en discutant, l'habitude, tout en discutant, on fait les choses, voilà, par habitude, c'est un mécanisme qui se met en chacun d'entre nous. Je suis toujours, en fait, impressionné de ce que la nature humaine est capable de faire. Il y a des choses où je dis, mais je serais incapable de les faire. Et puis, par habitude, à un moment donné, c'est acquis et on fait les choses. Vous avez remarqué que chez vous, par exemple, ben, vous réveillez dans la nuit, vous ne voulez pas réveiller les autres, vous n'allumez pas la lumière, vous savez vous diriger. Parce qu'en fait, il y a une habitude. On est là, le contexte est là. Quelqu'un a dit que, par exemple, par rapport à acquérir des bonnes habitudes, quand quelqu'un fait quelque chose pendant une période à peu près aux alentours de 21 jours, à partir de cette période-là, ben, ça va devenir quelque chose d'ancré, de profond et enraciné en chacun d'entre nous. Donc, prendre des bonnes habitudes pour nous tous, c'est tellement important. Et on va détailler quelques habitudes, évidemment, à acquérir pour chacune de nos vies. Et puis surtout, l'efficacité. L'efficacité, la définition, c'est qui produit l'effet qu'on en attend. Est-ce que vous savez ce matin que le Seigneur attend des choses de chacun d'entre nous? Il attend que l'on produise un certain fruit. Vous vous rappelez, par rapport aux faux docteurs, aux faux enseignants, il est dit que comment on les reconnaît? Aux fruits. Et un bon disciple, et c'est ce que nous sommes tous appelés à être, souvent on a de la facilité à dire, oui, tu es quoi? Ben, je suis chrétien. Est-ce que vous savez que le Seigneur ne nous a pas appelés à être chrétien? On comprend ce qu'il y a derrière, évidemment. Le Seigneur, il dit, vous ferez des disciples. Je n'ai pas encore entendu quelqu'un venir me voir et dire, je suis disciple de Jésus-Christ. Pourtant, c'est ce que nous sommes appelés à être. Donc, devenir disciple de Christ, et le Seigneur attend que chacun d'entre nous, nous puissions produire un fruit à sa gloire, alléluia. Ces fruits, nous les connaissons. Il y a tous ces fruits, tous ces quartiers d'un seul fruit qui doivent être trouvés dans la vie de chaque croyant, alléluia. Et un des principaux, on va dire, on ne va pas les catégoriser, mais en fait, un des plus importants, c'est l'amour. Il me dit dans l'évangile de Jean, chapitre 11, que c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres, que les gens aux alentours verront que le Seigneur est au milieu de nous. Et l'amour, c'est quelque chose de concret, vous avez remarqué? Nous, on l'a réduit souvent à un sentiment. Ce n'est pas qu'un sentiment. L'amour, c'est une action. Quand j'aime, je fais. Et l'amour qui a été manifesté de la part de notre Seigneur, donc qui a été prouvé, c'est l'épître de Paul aux Romains qui nous dit, Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour chacun d'entre nous. Ce matin, nous nous sommes rappelés, remémorés tout ce que Christ a fait à la croix du calvaire. Et ça réjouit nos cœurs de savoir que nous étions perdus. J'aime beaucoup me rappeler. Et c'est ce qui me garde finalement avec cette fraîcheur spirituelle de me rappeler régulièrement d'où le Seigneur m'a sorti. J'ai dit, mais j'étais quelqu'un, là vous me voyez comme ça, mais pas très fréquentable. Puis le Seigneur, il nous interpelle, on accepte de lui donner, de lui confier notre vie, il nous donne la vie éternelle. Avec cela vient quelque chose que l'on ne connaît pas, une paix surnaturelle, une joie profonde et réelle qui, malgré les épreuves que l'on peut traverser, dure, Et des fois, c'est même étonnant, parce qu'on se dit, tiens, dans ce que je traverse là, je devrais m'inquiéter. Je devrais perdre ma paix. Et puis la paix, elle est là, elle est au fond de notre cœur, parce que c'est une paix qui dépasse toute intelligence. C'est la paix que Dieu donne. Amen. Et c'est tellement merveilleux. Alors oui, Dieu attend à ce que chacun d'entre nous, nous puissions produire l'effet, c'est-à-dire donc des fruits. Alléluia. Et ce mot efficace fait référence à la qualité de nos vies et de nos services. Il y a une qualité. On doit se différencier. Je l'ai entendu tout à l'heure. Hein. On est du monde, mais on n'est pas de ce monde. Hein, ce n'est pas qu'on est parti dans une planète lointaine. Hein. Mais évidemment, hein, on a les deux pieds sur terre, mais la tête dans le ciel, parce qu'il y a une espérance dans notre cœur de savoir qu'un jour, nos yeux verront Jésus. Ça, c'est extraordinaire. Alors, le simple fait, c'est sûr, hein, on a tous une certaine imagination, le simple fait de l'imaginer, c'est déjà merveilleux, ça réjouit notre cœur, mais je vous promets que ce ne sera même pas comment vous l'imaginez, ça sera au-delà de tout cela. Voir Jésus face à face, être dans la présence de Dieu, être voilà, dans la gloire de notre Seigneur. Il y a trois disciples qui ont vécu une certaine expérience avec Jésus-Christ, où Jésus va se métamorphoser, hein, il va se métamorphoser pour leur faire voir finalement comment il était hein, dans sa gloire. Vous vous rappelez de la réaction de celui qui va devenir l'apôtre Pierre ? Alors, Seigneur, c'est tellement bon d'être là ! Et moi, j'ai envie de dire, quand je le lis, tu m'étonnes. Ben, c'est sûr, c'était bon. Hein. Déjà, quand le Seigneur vient dans une réunion, où il y a une action de l'Esprit puissante dans une réunion, ça réjouit notre cœur. Et alors, imaginez-vous, là, le Fils de Dieu qui se révèle dans toute sa gloire. Bon, après, il va aller un peu loin dans son imagination. On va faire trois tentes, on va rester là. Et Jésus dit, non, il faut qu'on descende de la montagne, parce que juste après, il descend de la montagne, il y a quelqu'un qui est possédé, un enfant qui est possédé, et qui a besoin d'être libéré. Et le message, c'est, oui, ok, toute la gloire, mais en attendant, vous êtes ici-bas sur terre, il faut continuer de faire l'œuvre de Christ, alléluia. Et nous sommes finalement des passeurs de relais. Aujourd'hui, hein, ça nous parle. Hein, on relais la flamme, vous voyez, vous avez vu la flamme des Jeux Olympiques qui fait le tour. Mais c'est une belle image de ce que le Seigneur fait avec chacun d'entre nous. Il est venu allumer un feu dans nos vies, et ce feu doit être communiqué. Ce n'est pas simplement pour le garder précieusement pour nous jusqu'à son retour. C'est que les gens voient finalement que Christ est la lumière et que la lumière habite en chacun d'entre nous. Alléluia! Et ça, c'est tellement merveilleux. Vous ne pensez pas que, surtout aujourd'hui, hein, précisément aujourd'hui, nous sommes dans un tournant hein, dans notre pays, et que notre pays de France a besoin d'éclairage. L'éclairage du ciel, il y a besoin de ça. Hein. Et je crois que l'Église de Christ a un mot quand même à dire par rapport à tout ça. Déjà prier, Seigneur, que nous puissions déjà nous vivre cette vie voilà, en paix, prier pour les autorités, ça aussi c'est important. Alors on va voir ensemble quelques habitudes pour être efficace. L'habitude numéro 1, le chrétien efficace, tout simplement, lise et obéisse à la parole de Dieu. Alors j'ai dit lire et obéir, parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, de moins en moins de chrétiens, on est tous d'accord avec ça, hein, mais on s'aperçoit que de moins en moins de chrétiens lisent la parole, et surtout, y obéissent. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui se passe. Quand on va voir les gens pour rectifier une certaine situation, et qu'on vient avec la parole de Dieu, et on vient avec des versets, on nous dit... Alors, pas tous, évidemment, hein, mais quand même, il y a voilà, hein, certaines personnes là qui se démarquent et qui nous disent « Ah, mais moi, je pense que... » Là, quand on commence à réagir comme ça, c'est qu'on est peut-être un peu déjà en danger, parce que ce qui fait foi dans notre marche chrétienne, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Vous me l'entendrez dire régulièrement. Si un jour, je dis quelque chose, vous avez mal compris, surtout déjà, premièrement, venez me voir, on en discute. Il faut qu'on en parle, en fait. Il ne faut pas garder certaines choses dans notre cœur. Et puis, surtout, ça va me préserver, moi. À un moment donné, on peut, je ne sais pas, hein, c'est humain, mais qu'on puisse partager dans la parole de Dieu, voilà, vous avez dit ça, qu'est-ce que vous vouliez dire? Si on est réellement une famille, hein, l'Église, on est considéré comme une famille, on doit pouvoir se dire les choses tranquillement, dans un cadre de paix, et pour pouvoir en discuter. Vous êtes d'accord avec ça? Ouf. Non, non. Alléluia. Donc, ben oui, les chrétiens efficaces, ils lisent et obéissent à la parole de Dieu. Les chrétiens sont efficaces parce qu'ils savent que dans cette parole, Dieu parle. Cette parole est vivante. C'est le livre le plus ancien dont l'auteur est toujours vivant. Celle-là, on pourra la noter quelque part. C'est le livre le plus ancien dont l'auteur est toujours vivant. Vous avez remarqué avec moi, on lit un passage. Si je prends par exemple le psaume 23, on connaît tous le psaume 23, je suis sûr et certain que plusieurs ici pourraient le réciter par cœur, évidemment. Hein. Certains sont en train de le faire maintenant. Arrêtez, voilà, suivez-moi. Voilà, le psaume 23, ça m'est déjà arrivé de le lire, de le relire, ça fait du bien à notre cœur. Et puis à un moment donné, dans une situation particulière qu'on traverse, et puis on lit ce passage-là. Et là, il y a une révélation toute particulière, toute fraîche que le Seigneur nous fait. Et on réalise, mais je ne l'avais pas vu avant. Parce qu'en fait, la parole de Dieu, elle est vivante. Elle sert évidemment à nous encourager. Elle sert à trancher. Elle sert à séparer. Elle sert également à nous reprendre. Alors, je ne sais pas si vous aimez être repris. Hein. En général, c'est pas la réaction première, c'est pas... Voilà, on est OK quand ça reprend, ça vient, voilà, toucher notre cœur. Mais c'est ce que fait la parole de Dieu. Et quand le Seigneur reprend, il reprend pour rectifier quelque chose, afin de nous rendre meilleurs. Alléluia. Donc, les bonnes habitudes. Et dans cette parole, c'est l'acquisition de la connaissance. On a besoin, tellement besoin, d'acquérir la connaissance de la parole de Dieu. Pas tout apprendre par cœur, comme dans certaines religions, ou réciter des versets par cœur. Quoique, moi j'ai constaté que j'ai lu certains passages, je ne me suis pas dit, tiens, aujourd'hui, je vais apprendre par cœur. Alors si on le fait, il n'y a aucun souci, hein, évidemment. Hein. Ça ne peut être que bénéfique. Mais je vais apprendre aujourd'hui spécifiquement un certain verset. Pour pouvoir, à un moment donné, le resituer et puis le dire et le partager. Mais je me suis aperçu qu'avec le temps, à un moment donné, en partageant la parole, en discutant avec des frères, avec des sœurs, certaines personnes qui ont besoin de conseils de la parole de Dieu, sortir les versets. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit est au-dedans de nous et cette parole, elle est esprit et vie. Parce que j'ai déjà dit que la parole était vivante, mais elle est également esprit, l'acquisition de connaissances. Également, cette parole va nous protéger concernant la tentation. Là, encore une fois, qui n'est jamais tenté ? On est tous tentés de façon différente et variée. Rappelez-vous que quand Jésus va être tenté, il est dans le désert. Moi, cet épisode-là, il me bouleverse complètement. Hein. Vous vous rendez compte qu'il y a un ennemi qui est là ? Et l'ennemi, il sait à qui il s'adresse. Il s'adresse au Fils de Dieu. Il va quand même essayer de le tenter. C'est quand même extraordinaire. Moi, je dis, quel toupet. Il essaie de tenter le Fils de Dieu. Tout ça pour vous dire comment réagit le Fils de Dieu. En disant, il est écrit. Il va citer la parole. Donc, quand on connaît la parole, ben à ce moment-là, on peut résister à la tentation, parce que évidemment il y a un pro, hein, c'est son boulot, hein, c'est son travail, hein, de venir finalement tenter les uns et les autres, afin que nous chutions et que nous nous éloignions de lui. Je suis sûr qu'on connaît tous des personnes qui se sont éloignées du Seigneur, peut-être en ayant fait une belle confession, une belle conversion même. Moi, j'en connais, hein. Je connais quelqu'un, une belle conversion, quelqu'un de dynamique dans l'Église, avec, je pense, qui avait quand même reçu quelque chose dans son cœur au niveau de la prédication. Et puis, il n'a rien fait de mal, hein, je vous promets. Hein. Pas fait de choses spectaculaires au tout début, mais le simple fait que travailler beaucoup, puis commencer très tôt le matin, finissait très tard le soir, il me disait, Alex, j'ai plus trop le temps de lire la Bible, j'ai plus le temps de prier le Seigneur, et puis petit à petit, on se vide, en fait. Ça c'est le naturel, hein. Il revient au galop. Et Puis bon, là actuellement, il est éloigné de Dieu et on continue évidemment de prier pour lui pour qu'à un moment donné, il puisse revenir. Et ça, c'est le rôle de chacun d'entre nous aussi, de pouvoir prier pour tous ceux et celles qui se sont éloignés, qui ont besoin de retrouver, vous savez quoi ? La bergerie. Alléluia. Tout d'abord, le berger, évidemment. Et ensuite, la bergerie pour être, alléluia, protégé. Amen. Et que le Seigneur nous aide. Donc, la parole de Dieu, elle est efficace. Regardez 2 Timothée, chapitre 3, verset 15, ce qu'il nous dit. Par rapport à l'apôtre Paul, il parle ici à Timothée, et il lui dit « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Alléluia. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Ici, donc, il avait bien commencé. Il faut dire qu'il avait été bien élevé dans les voies du Seigneur, avec donc une mère et une grand-mère dans le Seigneur. Et donc, ici, l'apôtre Paul, il lui rappelle, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Et je crois que chacun d'entre nous, nous devons connaître la parole de Dieu. Alléluia. Et pour la connaître, alors nous devons plonger nos regards dans cette parole. Pas simplement, à un moment donné, la lire pour la lire, même si des fois, évidemment, la parole de Dieu, je ne vais pas demander de tout comprendre d'un coup. Des fois, la révélation, elle est progressive. Mais en tout cas, plonger nos regards. Seigneur, je veux être attentif à ce que tu veux me dire encore et toujours. Et Paul, en fait, ici, il est en train de féliciter Timothée pour dire, mais tu connais les saintes écritures. Que les gens puissent dire de chacun d'entre nous. Mais tu sais, un tel et une telle, ben, en fait, elle connaît les écritures. Elle cite souvent les écritures. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, cette parole est une parole qui est puissante. Cette parole, elle sait trouver le chemin de nos cœurs afin de rectifier des fois certaines situations. Il y a une exhortation pratique pour chacun d'entre nous. Il ne peut pas y avoir d'efficacité si on ne connaît pas et on n'obéit pas à la parole de Dieu. Il ne peut pas y avoir d'efficacité. Et c'est pour ça qu'on découvre des fois certaines personnes qui sont en manque d'efficacité déjà pour leur propre vie et puis également dans l'Église. C'est parce qu'en fait la parole n'est pas au centre de leur vie. Il faut connaître, obéir à la parole de Dieu, on ne peut pas connaître si on ne la lit pas. Vous voyez des choses très simples, très pratiques. Après, à chacun d'entre nous, de prendre des résolutions. Je me souviens d'une sœur à l'église qui vient me voir premier dimanche de janvier, il y a quelques temps, quelques années, et qui me dit « Alex, j'ai décidé de prendre des bonnes résolutions. » J'ai dit « Moi aussi. » Faire un peu plus de sport, ouais, voilà. Elle me dit non, parce qu'en général, c'est ça, les périodes là de janvier. Elle m'a dit non, le Seigneur me met à cœur, à moi, d'être là à toutes les réunions. Parce que pour elle, c'est lui dire, bon, une semaine, c'est un peu compliqué, tout ça. Et non seulement de venir à toutes les réunions, mais de prendre un carnet et de prendre toutes les notes de toutes les prédications. Je vous promets, je vous certifie. Que cette sœur-là, dans l'Église, c'est celle qui a fait le plus de progrès dans le Seigneur. Et une profondeur qui est là quand on discute. Voilà, à tes résolutions, nous dit la Bible, répondra le succès. Si on prend ce verset à l'envers, ce matin, je pose la question, qui veut avoir du succès ? Tous, les personnes qui se disent, moi, je ne veux pas avoir de succès dans ma vie spirituelle. Alors, il faut prendre des bonnes résolutions, les appliquer et s'y tenir. Parce qu'il y a aussi les commençants, les personnes qui commencent, qui ne finissent jamais rien. Mais nous voulons commencer et bien finir, parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Ensuite, quand on parle de la parole de Dieu, une bonne habitude, et pour être efficace, il faut impérativement avoir une vie de prière active. Pas à un moment donné, quand ça ne va pas bien, « Seigneur, je crie à toi. » Si vous le faites, évidemment qu'il faut le faire. Il faut crier au Seigneur. Ce n'est pas, je ne parle pas d'un moment de prière, mais d'une vie de prière. Là, c'est différent. Une vie de relation. Vous l'avez sûrement entendu plusieurs fois, que la prière, ce n'est pas quelque chose d'impersonnel, c'est vraiment un dialogue avec Dieu. Je parle à Dieu, Dieu me parle. Mais pour que Dieu me parle des fois, je dois me taire. Je dois écouter, je dois être attentif. Là aussi, Jacques chapitre 5, verset 16 nous dit « Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Jacques 5, verset 16. Jésus, lui-même, priait à chaque étape de sa vie. Vous pensez que le Fils de Dieu, lui, en fait, qui, à chaque étape de sa vie, avait cette relation avec Dieu le Père. Est-ce que nous, on peut s'offrir le luxe de ne pas prier? Impossible. Pour avoir cette relation, je parle à Dieu, Dieu me parle, alléluia, que le Seigneur soit béni. L'apôtre Jean également était en prière quand il a eu la vision d'écrire le livre de l'Apocalypse. Quand on voit cette révélation, là je plongeais les regards sur le livre de l'Apocalypse encore il y a quelques temps, toujours émerveillé, hein. Il y a des choses qui restent mystérieuses parce qu'elles sont symboliques, d'autres elles sont textuelles. Mais du coup, on ne sait pas trop faire la part des choses. Mais en tout cas, cette révélation avec cette précision et comment lui, il l'a restituée, c'est parce qu'en fait, il y avait un contact avec le Dieu, le grand Dieu de l'univers et de Jésus-Christ qu'il avait côtoyé pendant qu'il était ici-bas sur terre et avec lequel il avait gardé cette relation. Donc pour une vie efficace, il faut une vie de prière. L'apôtre Paul également priait constamment pour être dirigé dans son ministère. Donc on ne peut pas s'offrir le luxe de ne pas prier. Et surtout pas prier pour simplement que les bobos. Vous savez la bobologie, Seigneur, mon ongle incarné. Seigneur, tu vois, mon dos qui me fait souffrir. Alors, oh, bien sûr qu'il faut prier pour ça. Moi, je bénis le Seigneur, parce que quand je suis arrivé sur l'église de Carpentras, j'arrive aux réunions de prière, c'était ça, en fait. Hein. Moi, j'appelais ces réunions de prière les réunions de prière de lamentation. Seigneur, tu vois, ceci, Seigneur, tu vois. Ceci. Et puis, petit à petit, on a essayé d'inculquer cette vision de prier pour les autres. De prier pour les besoins, de prier pour l'évangélisation, de prier pour que des âmes soient touchées, que des âmes passent le pas de la porte et que ces âmes-là puissent reconnaître. Ici, il y a Dieu. Alléluia. C'est ce qui est très important. Et vous savez ce que fait le Seigneur quand on a cette attitude? Sans qu'on puisse nommer nos besoins, il s'en occupe. Notre ongle incarné, il s'en occupe. Notre dos qui nous fait mal, il s'en occupe. Je suis sûr et certain, hein, on pourrait ici passer le reste du temps à témoigner de la grâce de Dieu, où à un moment donné, on se préoccupait, nous, de prier, d'intercéder pour les besoins qui étaient là, et puis le Seigneur, intervenir dans nos propres vies, alléluia. Parce qu'une chose est certaine, c'est que Dieu n'est redevable jamais, jamais, jamais de personne. Donc oui, l'habitude de la prière qui nous garde à l'écoute de Dieu, et également dans cette sensibilité au Saint-Esprit. Nous voulons être sensibles au Saint-Esprit. Le chrétien efficace réussit à garder la foi et à grandir parce qu'il demeure en contact avec l'Esprit de Dieu à travers la prière. Alléluia. Je sais, évidemment, comme vous, à un moment donné dans ma vie, travailler très tôt le matin. Et vous savez, des fois, l'être humain, je me disais, mais qu'est-ce qui a pu me passer voilà, par la tête, je me disais, c'est difficile le matin de se lever, il y avait les réunions en semaine, donc on y assistait, on se levait tôt le matin, donc c'était compliqué. Puis à un moment donné, je me suis dit, le Seigneur, il va me comprendre, hein. Je vais mettre le réveil un quart d'heure un peu plus tard, vous vous rendez compte, un quart d'heure de sommeil qui va révolutionner la vie. Puis je me suis aperçu, quelques temps après, que ma vie spirituelle était en train de se dessécher. La flamme commençait à baisser. Je disais, mais surtout pas. Et là, c'était comme si le Seigneur me reprenait et rectifiait certaines choses. Et puis, je me suis discipliné. J'ai dit, Seigneur, coûte que coûte, ce temps avec toi tellement important. Donc, je veux quand même le prendre. J'ai pris la décision, des résolutions. J'ai pris la décision. Et là, la vie de Dieu est revenue dans mon cœur. Alléluia, la flamme est là. Et c'est quelque chose de merveilleux de voir quelqu'un qui est enflammé pour le Seigneur. Alléluia. La flamme, elle n'est pas appelée à diminuer. Hein. Elle est appelée constamment à grandir. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à être des hommes et des femmes de prière. Ce n'est pas réservé simplement à une élite ou à quelques-uns. c'est chacun d'entre nous, nous sommes appelés à avoir une vie de prière. Un jour, quelqu'un me disait, « Je ne sais pas prier. » Je dis, « Est-ce que tu sais parler ?»« Oui, eh bien, c'est suffisant. » Parce que des fois, quand on dit qu'on ne sait pas prier, c'est parce qu'en fait, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en tout cas, moi, au tout début, c'était comme ça. C'était, je regardais celui qui priait le mieux, qui s'exprimait le mieux dans l'église, et au lieu de m'encourager, je me disais, mais jamais j'arriverai à prier comme lui. Et un jour, j'ai compris que le Seigneur n'attendait pas que je prie comme le frère ou la sœur, qu'il fallait que je prie avec mes propres mots. Et des fois, ça peut m'arriver également dans la langue française, on fait des erreurs. Est-ce que c'est important pour le Seigneur ça ? Ce que le Seigneur regarde, c'est le cœur. Alléluia. Le Seigneur ne nous demandera jamais de prier ou de louer comme ton voisin. Ça lui appartient. Mais que chacun d'entre nous, nous puissions être dans cette liberté de pouvoir prier le Seigneur. Habitude numéro 3, c'est que les chrétiens efficaces se fixent des buts spirituels. Ici, nous tous, on a des buts dans la vie, déjà réussir professionnellement, une vie familiale, pas pour les jeunes, vous voulez bâtir une vie familiale, essayer de vous projeter quelque part, on se fixe des buts et des objectifs. Mais le chrétien, c'est également pareil, il faut se fixer des buts et des objectifs à atteindre. Philippiens, chapitre 3, verset 12. Connaissez aussi ce verset, c'est un classique de l'apôtre Paul. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alors ici, il fait une confession, et j'aime beaucoup la transparence de l'apôtre Paul. Il ne vient pas avec un esprit de supériorité. Il dit, mais moi, j'ai compris quelque chose, je n'ai pas encore remporté le prix. Sous-entendu, le prix à remporter n'est pas ici-bas sur terre. Le prix à remporter, c'est là-haut. Il faut franchir la ligne d'arrivée en vainqueur. Moi, je bénis le Seigneur que quand ça arrive, c'est la vie, quand il y a des frères, des sœurs qui donc décèdent ici-bas et qui ont laissé un bon témoignage, que ça a été des exemples dans l'Église. Moi, je bénis le Seigneur pour ces personnes-là parce qu'en fait, je le dis régulièrement, quand je fais les obsèques, je dis, le frère, la sœur, a franchi la ligne d'arrivée en vainqueur. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul ici, il est en train de dire, c'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Alors, j'aimerais dire à l'apôtre Paul, j'ai dit, évidemment, on est au courant, que la perfection n'est pas à chacun d'entre nous. C'est pas une autorisation pour vivre dans la moyenne. Il nous faut tendre vers la perfection. Ça, c'est important. Remporter le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Il n'a pas dit « je me promène ». Il n'a pas dit « je marche ». Chaque mot de la Bible est inspiré de Dieu. Il dit « je cours ». Quand je cours, je suis actif. Quand je cours, je m'engage. Je fonce pour une raison, pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Cet homme-là, il a fait une conversion extraordinaire. Un jour, j'ai prêché sur lui, sur sa conversion. Je l'ai intitulé « La conversion d'un extrémiste religieux ». Mais c'est ça. Donc, Actes chapitre 9, il va demander des autorisations pour tuer cette nouvelle secte-là qui venait de sortir. Parce que ce n'était pas la gloire de Dieu. Le Seigneur va l'arrêter. Je suis toujours émerveillé. Parce que le Seigneur lui dit « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et je remarque que le Seigneur le connaissait par son prénom. Le Seigneur nous connaît tous, chacun d'entre nous. Puis on connaît, à un moment donné. Il y a aussi un passage qu'on occulte régulièrement dans la conversion de celui qui va devenir l'apôtre Paul. Il nous est dit qu'il est parti pendant à peu près 3 ans pour un temps de formation. Où ça ? Pas en Espagne ou à la Méditerranée, en bord de Méditerranée, en vacances, tranquille, dans le désert. Parce qu'il avait besoin de passer dans le pressoir, parce qu'il y avait des choses dans sa vie qui n'étaient pas compatibles avec l'œuvre à laquelle le Seigneur l'appelait. Et dans le désert, ce n'est pas agréable, mais c'est tellement nécessaire. Là où on progresse le plus, il n'y a personne ici qui va dire « Seigneur, envoie-moi une épreuve », personne. Mais là où on progresse le plus, Là où on grandit, là où on a une connaissance, une autre facette de qui est Dieu, Dieu se révèle d'une certaine manière, c'est quand on est dans l'épreuve, quand on est dans la difficulté. Et Seigneur, je suis sans force, comme a pu le dire un certain roi. Seigneur, je suis sans force, mais mes yeux sont sur toi. Et c'est ce qui fait la différence en fait. Mes yeux sont sur toi. Et quand nos yeux sont sur le Seigneur, en direction du Seigneur, alors on le suit pas à pas, alléluia, et dans ce chemin qui nous mène vers l'éternité, on le suit de tout notre cœur. Parce que, tout d'abord, c'est celui, on peut lui faire confiance parce que c'est celui qui connaît le chemin. Parce qu'il est lui-même le chemin. Donc il faut qu'on le suive impérativement. Et cet apôtre Paul, donc, il a vu, il a entendu Jésus, il pouvait même accomplir des miracles, il a établi l'Église dans l'Empire romain. Des fois, on l'oublie. Hein. On lit peut-être des fois la Bible parce qu'on connaît la fin de l'histoire, finalement. Ils étaient là, ils évangélisaient, c'était super, ils sortaient la sono, on imagine. Hein. Enfin, les moyens qui étaient le leur à cette époque-là, ils évangélisaient, ils allaient dans les synagogues, donc ils parlaient du Seigneur. Il nous semblerait qu'il y avait une certaine facilité. À un moment donné, il va le dire. Hein. Mais j'ai été persécuté, il m'a flagellé, on m'a jeté dans l'eau plusieurs fois. Il va dire quelque chose de tellement fondamental. Mais malgré ça, rien. Non, rien ne peut me séparer de l'amour de notre Seigneur. Alléluia. C'est dans l'Épître aux Romains où il est dit cela. Chacun d'entre nous, nous devons nous fixer des objectifs. Et à tous les âges. Les jeunes, la trentaine, la quarantaine, voilà, même... alors moi, je ne dis pas le troisième âge. Hein. Moi, je dis le bel âge. C'est parce que c'est un bel âge. Hein. Eh oui, le bel âge. Et le bel âge aussi, il a besoin de se fixer des objectifs. Alléluia. Des objectifs pour nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur. Je sais que vous avez un fardeau sur votre cœur. Faites confiance à Dieu. Priez de tout votre cœur et autant convenable. Pendant qu'on prie, c'est pas que le Seigneur se bouche les oreilles. Hein. Il œuvre et nous, on ne voit pas. Mais le Seigneur, il fait un travail dans les cœurs. Amen. Une habitude, l'habitude numéro 4, les chrétiens efficaces, ils cultivent les talents des autres. L'Église a un incroyable talent. Je dirais même, a des incroyables talents. C'est pas juste pour nous glorifier. Bon, évidemment, c'est un peu d'humour. Hein. Le Seigneur nous a donné des talents. Et il y a une parabole qui en parle. Vous savez que nous, souvent, parce qu'on ne comprend pas très bien, je dis, talent, voilà, hein, c'est ce que le Seigneur met dans nos cœurs. À cette époque-là, quand il est parlé de la parabole des talents, c'est d'abord une somme d'argent. C'était une somme d'argent, je crois que ça faisait 49 kilos, comme ça, d'argent. À un, il va lui donner, donc un talent, 49 kilos, à l'autre 3, et à l'autre 5. Le but de cela, c'était de le faire fructifier. Ce n'est pas de faire comme celui qui n'en a reçu qu'un, parce qu'il était insatisfait. Vous savez pourquoi ? Parce que lui, il voulait en avoir 3 ou 5. Mais ça appartient à Dieu. Des fois, le Seigneur, il va donner un seul talent à quelqu'un, et puis il en veut 3. Déjà, essayons de nous contenter du talent que nous avons et de le faire fructifier. Et quand on le fait fructifier pour le Seigneur, alors c'est l'histoire de la fidélité. Hein. Celui qui est fidèle dans la petite chose, Dieu nous en confiera des plus grandes. Fidélité de notre Seigneur. Alors, on veut cultiver le talent de chacun d'entre nous. Et l'Église, c'est à cela qu'elle est appelée. Moi, je bénis le Seigneur que dans les Églises, il y a des hommes, des femmes qui répondent à certains appels. Des jeunes qui se lèvent pour partir en mission. Gloire à Dieu. Des personnes qui se lèvent pour... qui ont des capacités pour traduire la Bible dans une langue où la Bible n'a pas été écrite. C'est extraordinaire parce que par ce biais-là, des personnes se tournent vers le Seigneur. Amen. Et puis, l'Église a un devoir missionnaire, un devoir d'envoyer tous ceux et celles. Et pour ça, évidemment, il y a toute une étape, hein, évidemment. C'est pas, on ne s'improvise pas comme ça. Il y a de la formation. C'est le Saint-Esprit qui nous forme. Et puis le Saint-Esprit, comme j'ai dit tout à l'heure, il donne à l'Église des ministères pour perfectionner justement à aller dans cette direction. Que le Seigneur nous aide à cultiver le talent des autres. Il y a Proverbe 27, verset 17 qui nous dit « Le fer aiguise le fer. Les gens deviennent plus humains au contact les uns des autres. » En fait, le Seigneur, il nous met tous ensemble pour qu'on devienne meilleur et qu'on se polisse, comme les pierres. Le fer aiguise le fer. Aujourd'hui, il y a un phénomène où certaines personnes vivent l'Église à domicile. Et on va sur YouTube, on met ma liste de chants préférés, celle qui touche mon cœur. Oh là là, ce chant, alors là. Et puis, on prend son prédicateur ou son pasteur préféré, et on pense que c'est ça l'Église. En fait, c'est une façon égoïste de vivre l'Église. Parce qu'on vient à l'Église pour, évidemment, recevoir, mais également pour apporter. Et également pour se frotter. Je bénis Dieu. Parce que, alors je portais un titre, alors je vais le dire comme ça. Hein. Dans l'Église où j'étais devenu le champion de France de prise de tête avec les chrétiens. Parce qu'en fait, le problème c'était moi en fait. J'avais un souci, je disais tout haut ce que les autres pensaient tout bas, mais je le disais d'une façon qui n'était pas recevable. Le fond était bon, pas la forme. Et donc du coup, avec les frères et sœurs, ça se fritait, comme on dit l'expression. Mais dans mon cœur quand même, je savais que je ne pouvais pas garder ça dans mon cœur. Quand, à un moment donné, je n'avais pas été à la hauteur. J'allais voir les gens, aucune difficulté à ça. Hein. Aller voir les gens, les frères et sœurs, pour leur dire, je te demande pardon parce que c'est pas bien de la manière dont je t'ai parlé. Donc, on se réconciliait. Puis, voilà, ça recommençait. Si j'étais resté, voilà, tranquille, chez moi, mais le caractère, il n'aurait pas pu donc évoluer. Aujourd'hui, le plus grand compliment qu'on puisse me faire, c'est « Oh, vous êtes patient, pasteur, vous êtes patient. » Je dis « Oh là là, si vous saviez d'où je viens. » voilà comment j'étais. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Petit à petit, le Seigneur travaille nos cœurs. Mais il faut qu'au fond de nos cœurs, il y ait quand même cet objectif à se fixer. J'ai dit, Seigneur, à être, ouais, je veux devenir comme toi. Le talent des autres, quand c'est inculqué dans un cœur, ça reste. Moi, je me souviens de mon grand-père qui s'est converti fin des années 60, début des années 70. Mon grand-père nous a toujours inculqué l'importance de l'Église, l'importance de venir aux réunions. Et non seulement de venir aux réunions, mais quand on vient aux réunions, d'avoir un respect pour l'endroit où le Seigneur manifeste sa présence, d'être sérieux, tout simplement, avec le Seigneur. Donc du coup, quand moi je me convertis, ces choses-là étaient dans mon cœur. Et à l'Église, on ne fait pas n'importe quoi, on est sérieux. Voilà, on fait des choses pour le Seigneur. Et ça, c'est par rapport au talent des autres. Donc, le faire aiguise le faire. Et dans une église, il se pourra, évidemment, ce n'est pas le souhait, qu'à un moment donné, il y ait de l'incompréhension et que je peux vous dire une parole qui peut vous blesser, qui peut faire du mal, sans vouloir le faire. La réaction à avoir, c'est de venir, d'en parler, de prier, de surtout pas garder ça dans notre cœur, parce que des fois, on est tellement maladroit, en tout cas pour moi. Et c'est ça, en fait, le faire aiguise le faire. Et dans l'Église, on est au meilleur endroit pour que le faire soit aiguisé. Il n'y a rien de plus terrible que quand on a une épée ou un couteau émoussé. C'est terrible, bien aiguisé. Le Seigneur veut travailler également notre cœur. Donc, les chrétiens efficaces cultivent le talent des autres. Et puis, l'habitude numéro 5, les chrétiens efficaces assument la responsabilité des âmes. Nous sommes responsables des âmes. Vous avez remarqué que dans nos rapports mutuels, quand on se parle, ça devient même comme une habitude. On se salue. Bonjour, tu vas bien? C'est rare de dire à quelqu'un, comment va ton âme? Parce que pourtant la Bible, elle nous parle de l'âme. L'âme, c'est ce qui va demeurer éternellement. Alors il faut qu'elle soit en pleine santé spirituelle. Alors les chrétiens efficaces assument la responsabilité des âmes. Les chrétiens efficaces assument cette responsabilité d'abord de leur propre âme. Et celle des autres, en particulier celle des perdus. L'Église a pour vocation d'annoncer le beau nom de Jésus-Christ, celui qui sauve, celui qui change les vies, ce qu'il a fait pour nous, il veut le faire pour plusieurs. Moi, je bénis le Seigneur pour les âmes qui vont être sauvées, qui vont rentrer dans la bergerie. On prie comme ça avec foi, ce n'est pas des paroles en l'air, parce que le Seigneur, il veut faire son œuvre. Et il veut faire son œuvre avec chacun d'entre nous. Vous connaissez ce verset qui nous dit, Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici pourrait me dire combien la valeur d'une âme? On ne peut pas la quantifier. Vous savez comment on peut la quantifier? La valeur de quelque chose. C'est par rapport, pour pouvoir l'acquérir, le prix qu'on est prêt à payer. Par exemple, les collectionneurs, quelque chose qui va valoir quelques centimes ou quelques euros. Puis avec le temps, ça a appartenu à quelqu'un, on veut l'acquérir. Et donc on est prêt à payer des sommes faramineuses pour pouvoir l'acquérir. C'est exactement ce qu'a fait notre Dieu pour chacun d'entre nous. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné son Fils. Pour qui? Pour nous tous. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors oui, ces âmes ont de la valeur pour Dieu, ont de la valeur pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut qu'elles aient de la valeur pour chacun d'entre nous. Et nous voulons prier pour que des âmes soient sauvées. Alléluia. Dans ce quartier, dans cette ville de Toulouse, il y a encore des personnes qui ont besoin de découvrir ce que nous, on a découvert. Alléluia. Moi, je bénis le Seigneur. Je rêve à ce que les lieux de culte soient trop petits. À ce qu'on puisse faire et un, et deux, trois, quatre et cinq cultes parce que on n'a pas les locaux pour recevoir tout le monde et faire pour chacun d'entre nous ces paroles, les garder dans notre cœur. Vous savez, c'est dans le livre de Zacharie. Zacharie 8, 24. Je regarde Bruno parce que c'est un des versets favoris de mon père. Ou 23, je crois. Zacharie 8, 23, où il est dit, à un moment donné, certains saisiront le pan de votre robe pour dire, nous voulons venir avec vous parce que nous savons que Dieu est avec vous. Alléluia. Et c'est ça, en fait. Donc, ce que je disais tout à l'heure, quand les gens, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, passent le pas de la porte, qu'ils puissent reconnaître que Dieu est au milieu de nous. Et quand Dieu est au milieu de nous, alors c'est lui qui bouleverse les cœurs, qui change les vies. Des fois, on est étonné quand des âmes passent par les eaux du baptême, je ne sais pas où le baptiste, par là, passent par les eaux du baptême, on est émerveillé de l'œuvre que le Seigneur fait dans ses témoignages. Alors, le dramatique, c'est quand il dit « Je suis venu pour la première fois à l'église, je ne sais pas ce que le pasteur a raconté ». Alors ça, on s'est dit, bon, on a préparé un message. Je ne sais pas ce que le pasteur a pu dire, ce qu'il a partagé. Pour un, il va être touché par l'amour qu'il y a entre nous, la communion fraternelle. D'autres, la paix, cette paix qu'ils recherchent au fond de notre cœur. Que les choses que les personnes cherchent puissent le trouver au milieu de nous. Alléluia. Et pour cela, on doit le cultiver de tout notre cœur. Alléluia. Je termine simplement en vous rappelant deux habitudes encore qu'on ne va pas développer, juste vous les nommer. Les chrétiens efficaces servent les autres. Servir les autres. Ça, c'est quelque chose qui est en voie de disparition dans les églises. Avoir ce cœur de serviteur. Ne pas attendre qu'on dise de faire ceci ou de faire cela. Le faire spontanément. C'est tellement bon et gratifiant pour nos vies. Alléluia, parce qu'il est dit que dans Matthieu 20, 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Si Jésus l'a fait, je pense que pour chacun d'entre nous, ça va être au centre de nos vies. Servir les autres, servir l'Église. Alléluia. Et puis la dernière habitude, les chrétiens efficaces demeurent concentrés sur le royaume. Je l'ai dit, notre espérance, c'est là-haut. Dans la parabole du semeur, Jésus décrit la personne qui reçoit la parole. Matthieu 13, 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais qui a le souci du siècle et la séduction des richesses qui étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Surtout, ne nous laissons pas avoir par les soucis de la vie. Remettons ces choses-là, ça ne veut pas dire qu'on fasse n'importe quoi, jamais de la vie. Mais en tout cas, la séduction des richesses qui étouffent cette parole, les soucis du siècle qui grandit un certain temps. On le voit pour cette catégorie-là, les soucis du monde, la séduction des richesses qui étouffent la parole, qui contrecarre sa croissance. Des fois, dans les églises, on trouve des personnes, hein, 30 ans à être là dans l'église et avoir une foi basique alors qu'ils devraient être des maîtres. Ils en sont venus à être toujours au lait spirituel. Que le Seigneur nous aide à progresser, à aller de l'avant, tous ensemble, à acquérir ces bonnes habitudes pour être efficaces. Que Dieu soit béni. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci encore pour toutes tes bonnes grâces, Seigneur mon Dieu. Toutes celles que tu nous as données, nous voulons être déjà reconnaissants pour tout cela. Mais également, Seigneur, te remercier pour celles que tu vas nous donner, Seigneur mon Dieu, pour la suite. Tu bénis, Seigneur, tu continues de bénir cette Église. Seigneur, je crois que tu as un plan pour chacun d'entre nous. Là où tu nous places, Seigneur, nous voulons œuvrer pour ton royaume. Merci pour les frères et sœurs qui sont là ce matin. Peut-être ranimer la flamme d'un appel dans les vies. Seigneur, je te prie pour tous ceux et celles peut-être qui sont sur le bord du chemin, peut-être écartés par une certaine situation. Seigneur, ranime cela. Que nous puissions retrouver ces bonnes habitudes afin d'être efficaces. Nous voulons être efficaces, Seigneur. S'il te plaît, aide-nous. Surtout à ne pas compter sur nos propres forces, mais à compter sur ta force, Seigneur mon Dieu. Et nous savons que si nous fixons les regards sur toi, si nous sommes à ton contact, alors tu vas nous remplir de toi, Seigneur, et tu vas nous aider dans cette charge, Seigneur mon Dieu, que tu nous donnes. Seigneur, bénis-nous chacun d'entre nous. Seigneur, que les semaines, les mois à venir, nous puissions pas, Seigneur mon Dieu, nous éloigner de ces choses-là qui sont la base d'une marche et d'une vie chrétienne. Seigneur, aide-nous. Seigneur, et nous comptons sur toi. À toi seul, soit toute la gloire. Merci Seigneur. Amen. Alléluia.